Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir comment identifier les contradictions qui limitent les performances de votre produit. Tout d'abord, pourquoi est-il intéressant d'identifier une contradiction sur un produit ? Eh bien, lorsqu'on cherche à innover pour améliorer un produit existant, on fait souvent face à des contradictions sans même s'en rendre compte. Il arrive souvent d'être confronté à des situations semblant à première vue insolubles, c'est-à-dire qu'en voulant améliorer une action ou un paramètre, eh bien vous constatez que vous en dégradez d'autres, en fait vous ne vous en sortez pas. Et la plupart des gens ont tendance à choisir la voie du compromis, ce qui revient à accepter le problème et d'en minimiser les conséquences en ajustant, si vous voulez, les différents curseurs de votre produit. Malheureusement, cette solution n'est pas satisfaisante car elle revient à réduire le problème plutôt que de le supprimer. Résoudre une contradiction est un bon point de départ pour innover. Ça revient à partir du monde du problème et de le comprendre pour ensuite trouver une solution. Si vous voulez, pour avancer, il vaut toujours mieux s'appuyer sur quelque chose. En fait, c'est plus facile et surtout bien plus efficace. Genrich Altschuler, le créateur de la méthode TRIZ, est parti de ce principe. Partir de l'existant pour le faire évoluer dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle il s'est efforcé notamment de définir des principes d'innovation qui permettent de résoudre les contradictions de votre système et de refuser le compromis. C'est vraiment une philosophie de conception qui est source d'inventivité. Selon la méthode TRIZ, il existe deux types de contradictions. Tout d'abord, il existe des contradictions techniques. Si vous voulez, dans l'esprit de TRIZ, une contradiction technique apparaît lorsqu'en voulant améliorer un effet A en jouant sur un paramètre, eh bien on dégrade un autre effet B. C'est ce que l'on voit sur le graphe juste à côté. Ces deux effets sont impossibles à concilier en l'état. Si on prend l'exemple d'une chaussure de running et qu'on décide d'améliorer l'amorti en augmentant l'épaisseur déformable de la semelle, eh bien en même temps, on va dégrader la stabilité pour le pied du coureur. Et inversement, si on souhaite améliorer la stabilité, il faudra diminuer l'épaisseur déformable de la semelle pour être au plus près du sol, et donc du coup, on va dégrader l'amorti. C'est donc une contradiction technique à résoudre, dont la résolution sera potentiellement source d'innovation. Donc pour sortir du compromis, vous avez ici plusieurs pistes à suivre pour vos recherches de solutions. Alors pour faire simple, on peut l'exprimer comme ça. Rendre stable la semelle avec une partie déformable épaisse. Alors, ça a l'air simple en l'exprimant comme ça, et ça l'est, je vous rassure, mais l'air de rien, vous avez identifié un axe d'innovation qui, par sa résolution, va permettre au produit de se libérer de ses limites techniques. Et ça, c'est un bon début pour innover utile. Alors, vous pouvez aussi exploiter la matrice de TRIZ, si la retranscription en modèle standard est possible. Alors ici, l'amorti, mais on a l'équivalent avec la perte d'énergie, et la stabilité existe en tant que telle, donc on pourrait utiliser la matrice de TRIZ. Alors si vous ne connaissez pas l'utilisation, l'usage de la matrice de TRIZ, ne vous en faites pas, nous verrons plus en détail l'utilisation de la matrice dans un prochain cours. Il existe aussi des contradictions physiques. Une contradiction physique apparaît, selon TRIZ, lorsqu'un objet doit être dans deux états contradictoires en même temps. Il doit avoir une propriété A pour une raison donnée et en même temps avoir une propriété différente de A pour une autre raison. C'est une contradiction physique. Alors si on reprend l'exemple de notre chaussure de running, l'idéal serait que la partie déformable soit épaisse et fine en même temps, épaisse pour l'amorti et fine pour la stabilité. Vous voyez, c'est une contradiction physique. Alors vous avez sans doute remarqué que cela revient à formuler différemment le problème à résoudre, mais à la base, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à améliorer ensemble l'amorti et la stabilité. Donc pour sortir du compromis, vous avez ici plusieurs pistes à suivre pour votre recherche de solutions, en vous appuyant sur les principes de séparation dans le temps et dans l'espace. Donc c'est la voie qui est privilégiée par la méthode TRIZ. Or ça donnerait les formulations suivantes. La partie déformable de la semelle est épaisse à certains endroits et fine à d'autres. Et la seconde formulation serait « La partie déformable de la semelle est épaisse à certains moments et fine à d'autres. » Alors là aussi, ça a l'air simple en l'exprimant comme ça, mais je peux vous dire que ce sont vraiment des principes puissants qu'il est pertinent d'exploiter pour une recherche de solutions. En réalité, face à ces contradictions, la voie du compromis est une impasse. Il faut dire qu'un compromis peut résoudre un problème, mais jamais vraiment de manière très innovante. Si vous voulez vraiment innover, vous devez opter pour une réflexion plus radicale et réserver le compromis en un second temps pour une optimisation de votre produit. Lorsque vous recherchez un compromis, vous arrivez rarement à une situation idéale. Pour satisfaire tous les critères, vous prenez le risque d'aboutir à un produit moyen, voyez le type de produit qui satisfait tout le monde et personne à la fois. Alors, dans le cas de notre chaussure de running, le compromis nous amènerait à choisir une épaisseur de semelle ni trop fine ni trop épaisse. Vous voyez, c'est pas très inventif tout ça. La recherche de compromis peut aussi conduire à une optimisation pointue de votre système. Il n'est pas toujours évident d'équilibrer tous les critères par le jeu d'un compromis simple et évident. Vous prenez le risque, pour maintenir cet équilibre, de devoir contraindre votre système. Et enfin, le compromis aboutira rarement à un produit réellement différent du précédent. Vous réussirez peut-être à améliorer votre produit s'il dispose encore de ressources, mais il ne deviendra jamais vraiment innovant ni remarquable. Cependant, le compromis n'est pas toujours évitable, il n'est pas toujours évident de résoudre un problème de manière radicale. Prenons le cas de l'éco-conception. La prise en compte de l'environnement dans la conception d'un produit intervient en parallèle des fonctions d'usage, des fonctions sur lesquelles un certain niveau de performance est attendu par l'utilisateur. Et vous voyez, ces deux critères ne sont pas forcément incompatibles, et c'est d'ailleurs souhaitable pour l'avenir. En revanche, l'état actuel des connaissances et des technologies ne nous permet pas toujours de réduire totalement l'impact sur l'environnement. Le concepteur doit trouver un compromis entre performance et bilan environnemental avec une vision réaliste pour que son produit se vende. Car un produit ayant réduit son impact à l'extrême, mais qui ne se vend pas, ne fait pas avancer le schmilblick en réalité. Voyons maintenant ensemble comment identifier une contradiction avec Trees. La première étape est d'établir une première relation de cause à effet. Cela vous challenge pour décrire le fonctionnement de votre produit. La méthode que je vous conseille de suivre est d'établir les relations de cause à effet entre les fonctions principales de votre produit et ses caractéristiques. Pour cela, partez d'une fonction principale et posez-vous la question du comment. Vous pointerez ainsi la partie et les caractéristiques de votre produit mis en œuvre pour répondre à cette fonction. Prenons toujours l'exemple d'une chaussure de running. Une de ses fonctions principales est d'amortir le choc lié à l'impact du pied au sol. Comment vous pouvez faire ça? Pour faire simple, retenons deux caractéristiques de la semelle qui contribuent à l'amorti. La première, c'est la dureté de la mousse, et l'autre serait donc l'épaisseur déformable de la semelle. C'est donc en vous posant la question du comment que vous arrivez à trouver les caractéristiques de la semelle concernée par la fonction d'amorti. La deuxième étape est de définir d'autres relations par déduction. Alors pour compléter le schéma, vous devez définir d'autres relations de cause à effet, cette fois-ci en partant d'une caractéristique de l'objet. Pour ça, posez-vous la question de « si, alors ». Vous voyez, si la caractéristique A augmente ou diminue, alors la fonction B est satisfaite ou pas. À ce stade, pour plus de clarté, il est intéressant de représenter l'impact positif ou négatif sur les fonctions. C'est ce qui vous permettra de mettre en évidence une contradiction. Alors, suivant toujours l'exemple de la chaussure de running, pour continuer la construction de ce schéma, vous devez placer, vous voyez, les fonctions d'un côté et les caractéristiques de l'autre. Alors, si l'épaisseur de la partie déformable de la semelle augmente, alors, la stabilité diminue. Vous voyez, vous venez de faire apparaître une nouvelle fonction qui est liée par une relation de cause à effet à une des caractéristiques influentes pour l'amorti. Alors, tout ça, vous voyez, c'est ce que nous avons vu précédemment. Là, vous en voyez maintenant la construction. La troisième étape est de continuer jusqu'à décrire l'ensemble de votre produit. En continuant à décrire les relations de cause à effet entre les principales fonctions et les principales caractéristiques de votre produit, vous vous questionnerez sur toutes les interactions possibles. Ça vous aidera à prendre du recul et à mieux comprendre comment votre système fonctionne, notamment en lien avec la fonction que vous avez identifiée comme étant la principale à satisfaire. Ça vous aidera à prendre du recul et à mieux comprendre comment votre système fonctionne, et vous visualiserez en un coup d'œil où sont les contradictions qui limitent les performances de votre produit. Alors continuons l'exercice ensemble. On retrouve les relations déjà établies. Maintenant, on va continuer. On va lister tous les autres paramètres qui influencent l'amorti. On retrouve d'une part la densité de la mousse, et le rebond. Alors si vous éprouvez des difficultés à vous représenter l'impact de l'évolution d'une caractéristique, je vous conseille de pousser le bouchon le plus loin possible en forçant le trait. Alors ça vous aidera à faire apparaître de manière plus évidente l'interaction. Voyez, dans le cas de l'augmentation de l'épaisseur de la partie déformable de la semelle, eh bien la dégradation de la stabilité vous paraîtra évidente, par exemple, si vous imaginez une semelle en mousse de 50 cm d'épaisseur. Ensuite, on poursuit en établissant les conséquences de ces paramètres sur les fonctions. Le rebond, eh bien, aura un effet sur le dynamisme, donc là on fait apparaître une nouvelle fonction. La dureté de la mousse aura un impact sur le dynamisme et la stabilité. L'épaisseur aura un impact sur le poids également, donc là on fait apparaître également une nouvelle fonction. Et puis, la densité de la mousse aura également un impact sur le poids. On pourrait continuer comme ça en élargissant le nombre de critères ou en allant plus dans le détail des paramètres physiques, mais pour l'exemple, c'est déjà bien suffisant, on va s'arrêter là. Puis vous devez vérifier la pertinence des interactions et des termes choisis. Prenez le temps de relire plusieurs fois votre représentation pour la compléter ou en ajuster les termes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais lorsque j'ai parlé d'épaisseur, j'ai utilisé les termes « partie déformable » au lieu de « mousse », car ça ne limite pas la réflexion à un type de matériau. Vous verrez que plus vous avancerez dans ce travail, plus les choses vous apparaîtront avec clarté. En passant trop rapidement sur cette étape, vous risquez de passer à côté de l'essentiel, donc faites bien attention à ça, investissez bien du temps sur cette analyse et cette lecture. Et enfin, la dernière étape est d'évaluer la pertinence des contradictions qui apparaissent. À ce moment-là, il est intéressant de se laisser imprégner et prendre conscience de la portée de chaque contradiction. Puis il est intéressant également de porter un regard sur ce qui se fait actuellement et d'analyser comment cette contradiction est traitée par les autres, par vos concurrents par exemple. C'est toujours riche de prendre du recul par rapport à ça. Et enfin, vous devez évaluer quelles sont les contradictions qui ont le plus de pertinence pour préparer le terrain avant de vous lancer dans la créativité. Maintenant, si on fait le point sur les contradictions qui apparaissent, on retrouve celles qu'on connaissait déjà, mais de nouvelles sont apparues, comme celle qui relie le dynamisme et l'amorti. Avec comme piste d'innovation, vous voyez, on pourrait le formuler comme ça, rendre dynamique la semelle avec un rebond faible. On pourrait également essayer d'utiliser, d'exploiter la matrice de trise, si la retranscription en modèle standard est possible. Donc l'amorti, nous l'avons vu, c'est possible avec la perte d'énergie. Mais le dynamisme, franchement, j'ai pas trouvé. Donc là, on est plutôt dans une impasse, on ne peut pas véritablement exploiter la matrice. Au niveau des principes de séparation, on pourrait les exprimer comme ça. La semelle rebondit à certains endroits et pas à d'autres. Ou la semelle rebondit à certains moments et pas à d'autres. Donc vous voyez, de nouvelles pistes d'innovation sont apparues grâce à cette contradiction. Alors on continue, ensuite une autre contradiction est apparue entre le dynamisme et l'amorti. Alors ici les pistes d'innovation peuvent être les suivantes. Rendre dynamique une semelle avec une dureté de mousse faible. Alors on a vu que la matrice de trise, c'était pas possible. Et puis, au niveau des principes de séparation, on pourrait les exprimer comme ça. La semelle est molle à certains endroits et dure à d'autres. Ou la semelle est molle à certains moments et dure à d'autres. Donc là encore, ce sont des pistes d'innovation que vous pouvez exploiter pour de la créativité. Ensuite, une autre contradiction est apparue entre le dynamisme et l'amorti, en lien avec la dureté de la mousse. Donc en revanche, les pistes d'innovation ont déjà été formulées avec les contradictions précédentes, donc on va passer à la suivante. La suivante, qui est la dernière contradiction qui est apparue, cette fois-ci entre l'amorti et le poids. Alors les pistes d'innovation sont les suivantes. Rendre légère une semelle avec une densité de mousse importante. On pourrait également chercher à exploiter la matrice de trise. Donc ici, les modèles standards le permettent, l'amorti, donc la perte d'énergie, et le poids, donc on pourrait l'assimiler au modèle standard, au paramètre qui est formulé de la manière suivante, masse d'un objet mobile. Donc là, ça vous ouvre l'accès à la matrice et donc à plusieurs principes d'innovation. Les principes de séparation peuvent être exprimés de la manière suivante, la semelle est dense à certains endroits et pas à d'autres, Et enfin, la semelle est dense à certains moments et pas à d'autres. J'en profite pour vous dire, vous voyez, dans l'exemple de cette semelle de running, et notamment par rapport aux deux derniers principes de séparation, il est pertinent de bien comprendre tous les aspects biomécaniques liés au déroulement du pied. C'est ça qui vous permettra de bien localiser à certains endroits, certaines propriétés, ou à certains moments, par rapport au déroulé du pied. Vous voyez, c'est ce niveau de connaissance qui, à un moment donné, vous permettra d'exploiter avec un maximum d'efficacité eh bien, tous les principes que vous êtes en train d'écrire. Rappelez-vous que dans le processus créatif, la connaissance précède toujours l'idéation, et donc du coup, il est toujours pertinent d'avoir un bon bagage technique et scientifique, et une bonne connaissance du produit et de son usage, eh bien, pour exploiter au maximum tous les principes d'innovation sur lesquels vous allez vous lancer pour la créativité. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment d'analyser un produit. Dans cette approche de recherche des contradictions, votre valeur ajoutée se situe davantage sur l'analyse que sur la génération d'idées. La génération d'idées viendra en un second temps. Et vous voyez, on peut se dire également qu'un problème bien posé vous apportera toujours plus de solutions pertinentes. C'est Albert Einstein qui disait, l'expression que j'affiche pour qu'on puisse la lire ensemble, « Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. » Je trouve cette citation pleine de bon sens, et pourtant, eh bien, on l'applique pas forcément tout le temps, et on se dirige parfois trop rapidement vers des solutions trop évidentes. Le questionnement que vous entreprendrez vous apportera une autre vision de votre système, et c'est justement en regardant les choses différemment que naissent de nouvelles idées. Il est souvent utile de faire un pas de côté pour donner de la perspective à votre problème et faire apparaître un point d'appui pour sa résolution. Alors pour vous aider dans l'application de cette méthode, je vous ai mis en dessous de cette vidéo une fiche outil avec le bon template à suivre, donc ce sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà, c'est la fin de ce cours, et bien je vous souhaite un bon exercice et à bientôt pour la prochaine vidéo.